Seigneur notre Dieu, merci pour la possibilité encore d'être réunis ce matin pour entendre ta parole. Seigneur, pour entendre ce que tu veux dire à nos cœurs, afin que cela porte du fruit pour la vie éternelle. Seigneur, tu n'es pas un Dieu fantaisiste. Et tu souhaites que nous recevions de toi des choses qui durent. Tu ne veux pas que nous puissions nous regarder dans un miroir et partir en oubliant ce que nous avons vu. Seigneur, tu désires t'adresser à nous et tu souhaites, Seigneur, que nous soyons au bénéfice de ce que tu nous dis. Merci pour ta parole qui a déjà été donnée ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on lise un verset dans 1 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Le contexte de ce verset, c'est celui des viandes sacrifiées, et je vais le sortir un peu de son contexte. Parce que, en même temps que son contexte, il exprime aussi une vérité beaucoup plus large, beaucoup plus générale de la parole de Dieu, qui est la vérité de la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Le mot « gloire » dans la Bible est très courant, je crois qu'on le trouve plus de 400 fois. Et lorsqu'on commence à travailler sur ce sujet, on a l'impression qu'on se perd dans les choses. Donc j'ai essayé de me consacrer à certains aspects. Mais de façon générale, la gloire, c'est ce qui ressort d'une personne, ce qui est exprimé d'une personne parce qu'elle est à l'intérieur d'elle-même, ses qualités personnelles, et aussi ce qui est à l'extérieur d'elle-même, c'est-à-dire son statut, son rang social, sa position. Et bien entendu, très souvent on attribue une certaine gloire aux gens qui sont rois, qui sont des princes, qui ont donc un pouvoir installé sur des sujets, sur un pays ou une vaste partie de territoire, donc des domaines où les gens règnent. En ce qui nous concerne, évidemment, on va plutôt s'arrêter sur la gloire de Dieu. Et là, pour définir, on peut déjà premièrement dire que c'est impossible de déclarer, de définir précisément ce qu'est la gloire de Dieu, parce que cela dépasse les mots, cela dépasse même la connaissance humaine. Mais on peut dire que, selon la parole de Dieu, selon ce qu'on connaît de Dieu et qui nous est révélé dans la parole, la gloire, c'est l'ensemble de ses attributs, c'est l'ensemble des traits de perfection. C'est comme ça que j'ai appelé ça, les traits de perfection de Dieu, qui sont associés en une seule, qui sont agrégés en un seul bloque en quelque sorte et qui forme toute la gloire de Dieu. On peut prendre pour imager un chef-d'œuvre en peinture. Un chef-d'œuvre en peinture, un tableau, une toile, c'est un ensemble de traits, c'est un ensemble de petits dessins qui, mis ensemble, forment un chef-d'œuvre. Donc on a la fleur d'un côté, on a le caractère là-bas, on a le ciel, on a les différentes émotions qu'on peut rendre sur la toile, et toutes ces choses mises ensemble permettent de déclarer « ceci est un chef-d'œuvre ». Et Dieu est un chef-d'œuvre, mais il en est lui-même l'origine. Il n'a pas eu besoin de quelqu'un pour le façonner, pour le dessiner. Donc la gloire de Dieu, c'est l'union et l'harmonie parfaite des multiples traits de gloire qui le caractérisent. Psaume 89 nous parle de la gloire de sa puissance. Éphésiens 6 nous parle de la gloire de sa grâce. 2 Thessaloniciens 1, verset 9 nous parle de la gloire de sa force. Et chacun de ces éléments en lui-même à son importance. Dieu est glorieux parce qu'il porte en lui et sur lui l'ensemble de ses perfections. La gloire dépasse la compréhension humaine parce que elle a pris naissance avant même la création. Jésus, dans Jean 17, dit « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. » C'est donc que les choses ont été faites avant ce que nous connaissons. La gloire de Dieu ne peut se comparer à aucune autre. Elle est préexistante à toutes. La gloire de Dieu est donc l'unique référence fiable à laquelle on peut mesurer toutes les autres formes de gloire qui sont nécessairement des gloires inférieures à celles de Dieu. La gloire, c'est donc un ensemble de traits de perfection par lesquels Dieu montre son amour aux hommes. Mais la gloire, ce n'est pas seulement des traits de perfection qui montrent l'amour de Dieu pour les hommes. En effet, ce serait déséquilibrer la gloire de Dieu que de montrer juste cet aspect-là. La gloire de Dieu, c'est aussi l'ensemble des traits de perfection par lesquels Dieu montre sa colère aux hommes. Lorsque j'étais enfant, on m'a parlé de l'amour de Dieu. Ce que nous disons à nos enfants, c'est que Dieu les aime. On m'a parlé de l'amour pour tous les hommes. Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc on a l'habitude de concevoir Dieu comme un Dieu d'amour. Et c'est complètement juste. Mais si on ne conçoit Dieu que comme un Dieu d'amour, c'est complètement faux. Puisque la perfection de Dieu se révèle et dans son amour et dans sa colère. Je dirais que l'amour de Dieu pour tous les hommes est une réalité. Mais je dirais que l'amour de Dieu est contrasté. Dieu n'aime pas tout le monde de la même façon. Dieu aime tous les hommes. Il leur propose la grâce. Il propose la compassion. Il donne les saisons, il donne la nourriture, il arrose la terre. Il donne à tout le monde la possibilité de le découvrir au travers des perfections de la création. C'est Romains chapitre 1, n'est-ce pas? Tout le monde a cette possibilité de voir la merveille, le chef-d'œuvre divin au travers de la création. Et ceux qui cherchent, ceux qui ont l'habitude de regarder la création, souvent se disent, il y a quelqu'un derrière. Ça n'est pas possible autrement. Il y a un Dieu au-dessus. Donc Dieu aime tous les hommes et toutes les femmes de ce point de vue-là. Dieu aime la beauté. N'est-ce pas? On ne peut pas dire de la création qu'elle est moche. On peut dire des choses que les hommes ont fait, c'est moche. Mais ce que Dieu a accompli dans la création, c'est merveilleux. Il y a des finesses, il suffit de prendre un brin d'herbe et de le regarder, et on voit des choses absolument fantastiques. Qu'on se penche sur l'infiniment petit ou sur l'infiniment grand, tout est merveilleux. Dieu aime l'art. Ça des grandes questions parfois dans le monde chrétien. Est-ce que Dieu aime l'art? Évidemment que Dieu aime l'art. Est-ce que vous avez vu ces chefs-d'œuvre de paysages qui sont là autour de nous? C'est de l'art. Ça n'est pas autre chose. Est-ce que Dieu aime les bonnes choses? Est-ce que Dieu aime les goûts fins et discrets? Est-ce que Dieu aime les goûts prononcés? Bien entendu. Bien entendu, il nous a donné dans la nature les herbes avec lesquelles nous pouvons épicer nos plats. Le cacao pour faire du chocolat. Il y a des gens qui disent que le péché de gourmandise est un péché particulièrement grave. Alors Dieu a un problème peut-être. N'est-ce pas? Dieu est pour que nous utilisions nos sens. Il n'a jamais dit, oh, surtout rideau, c'est lui-même qui les a créés. Et ça, c'est la splendeur externe de Dieu, comme j'appelle ça. On peut aussi parler de sa splendeur interne dans la création, sa divinité et sa capacité à créer la vie, les hommes, les femmes, les animaux, créer une vie spirituelle dans l'homme. N'est-ce pas que les êtres célestes, les anges, toutes ces choses, c'est Dieu qui les a faites. Et dans ces choses, Dieu se dévoile à toute l'humanité. Dieu se montre de façon évidente à toute l'humanité. Voilà, donc Dieu aime vraiment tous les hommes et toutes les femmes. Mais si Dieu aime tous les hommes et toutes les femmes et souhaite qu'ils croient en lui, il se trouve que Dieu ne croit pas dans l'homme et dans la femme. Il se trouve que Dieu ne fonde aucun espoir sur l'homme et sur la femme. Hein? C'est pas que Dieu pense que l'homme et la femme n'existent pas, c'est qu'il ne croit pas en eux. Certains hommes disent « Ah, je ne crois pas en Dieu » et ils pensent que Dieu n'existe pas. C'est pour ça qu'ils le disent. Mais quand Dieu dit qu'il ne croit pas en l'homme, c'est pas qu'il croit que l'homme n'existe pas, puisqu'il l'a créé. Mais il ne croit pas en l'homme, parce qu'il sait que son cœur est définitivement corrompu. Alors, Dieu aime tous les hommes, mais il les aime temporairement. Il les aime dans un espace-temps qui a des limites. Parce que autant Dieu aime l'homme et veut son bien, autant un jour, cet amour aura une fin et cet amour va se transformer en haine pour l'homme. Oh, Daniel, tu utilises des mots qui sont forts. Mais la parole de Dieu nous parle de la haine de Dieu. La parole de Dieu nous parle de la colère de Dieu. La parole de Dieu nous parle de la justice de Dieu. Et à la fin, lorsqu'il s'agira de passer au jugement, il y aura effectivement un jugement. Et ça, ça pose beaucoup de problèmes psychologiques aux chrétiens. N'est-ce pas? Avec le temps, et parce que les mœurs se sont adoucies dans nos sociétés, on a du mal à s'imaginer que Dieu peut être autre chose qu'un Dieu d'amour. Et que, un jour, la colère de Dieu va effectivement survenir. On a du mal à penser que Dieu ne va pas changer d'avis et que quand même il va trouver une solution et qu'il finira quand même par être un bon papa gâteau et il finira quand même par nous éviter l'enfer, même si on a été méchant. C'est-à-dire que alors certains ont élaborer des stratégies qui servent, certains sont après la mort, un temps de latence pendant lequel les choses se rétablissent et ensuite on accède au paradis. Certains ont dit que nous allons vivre plusieurs fois et que nous allons de ce fait arriver à une forme de perfection qui va transcender toutes nos erreurs humaines et toutes ces choses. Parce qu'on ne peut pas se résoudre à croire que Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu qui a donné son Fils pour nous, sera aussi le Dieu qui laissera parler sa colère. On n'arrive pas ou on n'arrive plus à s'y résoudre. Pourtant, c'est ainsi que la parole de Dieu nous présente Dieu et la gloire de Dieu est composée et de son amour et de sa colère. Donc Dieu aime tous les hommes, mais Dieu a aussi un amour particulier. Un amour particulier pour ce que Jean, dans Jean 13, appelle les siens. On va le lire. Verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. On peut aussi dire, il les aima jusqu'à la fin. C'est comme ça que c'est traduit dans la Bible Martin, ou dans certaines Bibles anglaises, où il les aima à la perfection. Il les aima entièrement, complètement, totalement, au maximum, il les aima. Et Dieu, dans d'autres endroits, Dieu remercie le Père en disant, parlant de ceux que tu m'as donnés. Et Dieu a un amour particulier pour ceux que le Père lui a donnés, pour les siens. C'est-à-dire ceux qui ont été convaincus de péché, de justice et de jugement, qui se repentent et qui croient. Dieu leur prodigue un amour qui est gracieux, qui est plein de pardon, qui est compatissant, riche en bonté, miséricordieux, apte à guérir, à restaurer. Un amour qui sanctifie, qui purifie, qui discipline, qui forme, qui châtie et qui amène à une plus grande piété. Dieu aime les siens de cette façon-là. Alors vous me direz, mais si Dieu ne croit pas dans l'humanité, et s'il consacre toute son attention à ceux qui sont les siens, comment l'humanité peut-elle croire en Dieu, surtout si elle doit passer par de terribles souffrances, comme c'est le cas ces temps-ci? Frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'est soumis à aucune loi. S'il aime tout le monde, il n'est pas obligé de les aimer de la même manière. Et Dieu n'est pas prisonnier des interprétations théologiques des hommes sur l'amour et sur l'équité. Ça c'est, n'est-ce pas? L'équité, c'est quelque chose, c'est le grand sujet. Lorsqu'on parle de discrimination, alors on parle aussi d'équité. L'homme a une idée de l'équité. Dieu en a une autre. Si je regarde l'actualité brute aujourd'hui, alors je me dis que Dieu est injuste. Alors je me dis que Dieu est injuste. À cause de ce qui s'est passé, ce tremblement de terre, ce tsunami, ces gens actuellement qui sont bombardés par celui qui devrait être leur président, je me dis alors, Dieu est injuste. Sauf que Dieu n'est pas justement prisonnier de nos présupposés théologiques et de nos conceptions de ce que doit être la vie. Et la souffrance des uns et des autres ne leur donne pas plus de chances d'être aimés de Dieu que d'autres qui sont dans la joie et dans le confort. Jésus a été confronté à plusieurs reprises à la souffrance des hommes et des femmes. Des amis proches de lui ou des inconnus. Et en toutes circonstances, lorsqu'il y avait des questions, il a orienté les réponses vers la gloire de Dieu. On peut les voir en vitesse. On va prendre Luc 13. versets 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloué et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » On peut transcrire, croyez-vous que ces Japonais fussent de plus grands pécheurs que tous les autres? La réponse du Seigneur reste la même. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Lorsqu'un pécheur est amené à la repentance, cela glorifie Dieu, n'est-ce pas? Les événements que nous vivons aujourd'hui ou ceux que nous avons pu vivre dans le passé, ce que nous vivons autour, auprès de nous aussi, ne doivent rien questionner sur Dieu, mais doivent nous conduire à la repentance, afin que Dieu soit glorifié, y compris dans ces circonstances terribles. On peut prendre un autre passage dans Jean 9, verset 3. Je vais commencer au début du chapitre. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. N'est-ce pas? On dirait, oui, ben voilà, il n'a pas eu de chance, il a tiré le mauvais numéro, ou la génétique lui a joué un sale tour, ou sa situation est très injuste. Comment se fait-il? Où est Dieu dans tout cela? La réponse de Jésus, c'est pas la mienne. C'est la réponse du Seigneur Jésus lui-même. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Parce que ce que Jésus allait faire était glorifier Dieu dans la guérison de cet homme. On va prendre un troisième. Un peu plus loin, dans Jean 11, c'est l'histoire de Lazare. Les sœurs envoyèrent, verset 3, dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort. » Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Plus loin, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. On parle de Jésus, il est resté, il n'est pas allé tout de suite. Et quand il est arrivé là-bas, ça faisait 4 jours que Lazare était mort. Dieu est-il négligent? Dieu agit-il avec paresse, avec nonchalance? Seigneur Jésus, celui que tu aimes est mort. Combien de fois avons-nous prié avec impatience. Combien de fois avons-nous insisté comme des malpolis pour que Jésus intervienne dans une situation? Le Seigneur Jésus n'est pas soumis à notre temps, il n'est pas soumis à nos envies, il n'est pas soumis à nos desiderata. Il a ses propres desseins. Et ce qu'il accomplit, c'est toujours pour la gloire de Dieu. On a dit que Dieu aimait le monde. On a dit que Dieu aime les siens avec un amour particulier. Et on a dit que, quelle que soit sa bonté, sa patience, sa tendresse, cela ne peut atténuer en aucun cas sa colère, sa vengeance, sa justice. Dieu se glorifie en manifestant tous les traits de sa perfection et tout ce qu'il accomplit pour l'homme, le salut, le déversement du Saint-Esprit, les guérisons, les délivrances. Il se glorifie en faisant cela, non pas pour mon confort, non pas pour le vôtre, pour que vous vous sentiez mieux, mais il le fait par amour pour lui-même, premièrement. La conséquence, c'est que nous nous sentons mieux. La conséquence, c'est que nous découvrons la délivrance et parfois la guérison. Mais il ne le fait pas pour cela en priorité. Il le fait non pas par amour pour moi ou pour vous, mais il le fait en priorité par amour pour lui-même. Alors j'avoue que, tout en le sachant, ça a été une redécouverte. C'est que Dieu, avant toute chose, fait les choses pour lui-même. On peut le lire dans Ésaïe, au chapitre 43, verset 25. C'est moi. Moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ésaïe 48, verset 11. C'est pour l'amour de moi, que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Il y a de nombreux versets. C'est l'amour de moi, par égard pour mon nom, Toutes les actions que Dieu fait, tous les agissements de Dieu sont motivés par un seul objectif. L'amour de lui-même, avant toute chose. Je vais bientôt conclure et je vais rappeler le verset initial. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour l'amour, pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que maintenant que vous avez compris de quoi il s'agit, vous ne mangerez plus, vous ne boirez plus, vous n'irez plus là-bas, vous ne ferez plus ceci ni cela, sans que cela soit fait pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Le destin des croyants est lié au dessein de Dieu et de sa volonté. C'est pas du hasard. C'est pas aujourd'hui je vais faire mon planning et je vais faire ceci, je vais faire cela. Oui, c'est bien, on peut organiser sa vie, bon. Mais si vous organisez votre vie et que vous mettez Dieu au rencard pour cela, alors vous vivez dans le péché. Une désobéissance, c'est une désobéissance. Et si vous ne faites pas, si je ne fais pas les choses pour la gloire de Dieu, alors je les fais pour moi. Et si je les fais pour moi, je suis dans la désobéissance. Et il faut se repentir de cela. Je suis conscient que cette vérité est peut-être dure à entendre pour certains d'entre nous. Mais si cette vérité vous réjouit, si elle vous a réjoui le cœur, alors c'est que Dieu a déjà grandement œuvré en vous. Il a déjà accompli de grandes choses. Pour que la gloire de Dieu soit manifeste, Dieu agit comme il le veut. Si le pécheur est sauvé, c'est pour sa gloire. Si le pécheur est condamné, c'est tout autant pour sa gloire. Est-ce que vous arrivez à le croire, ça? Si le pécheur est sauvé, c'est pour la gloire de Dieu. Si le pécheur est condamné, c'est tout autant pour la gloire de Dieu. Dieu aime le monde. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Et Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Et il a de la compassion pour ceux qui périssent dans leurs péchés. Mais il avertit. Il avertit du jugement. Il appelle à la repentance. Mais, ayant fait tout cela, même la damnation éternelle du pécheur glorifie Dieu. Parce que Dieu lui-même accomplit ses propres préceptes. Toute chose est faite pour sa gloire. N'est-ce pas? Il nous demande de faire toute chose pour sa gloire. Mais avant nous, lui-même fait toute chose pour sa gloire. Je suis bien conscient que pour comprendre la gloire de Dieu, il faut une révélation de Dieu. Une simple croyance ne permet pas de comprendre que Dieu est glorieux et que l'homme commet un crime de lèse-majesté s'il ne donne pas gloire à Dieu. Une simple croyance ne permet pas non plus de déclarer juste la colère de Dieu déversée sur la terre, comme le font les anges dans Apocalypse au chapitre 16. C'est ce verset précisément qui, depuis des années, a déclenché ma réflexion sur ce thème. Et j'entendis, verset 1, une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, « Allez verser sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, Seigneur, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes, Et j'entendis un autre du côté de l'autel qui disait « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Et ainsi de suite. La coupe de colère de Dieu est une colère qui est déclarée juste. Les conséquences de cette colère sont justes. Pour terminer, je vais juste vous lire le psaume 109, verset 21. « Et toi, éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom. » David savait prier. David savait prier. Combien de fois nous prions, « Seigneur, agis à cause de moi. Agis parce que ça va pas. Agis parce que je suis comme ça et que j'aimerais être comme ceci. » Frères et sœurs, si aujourd'hui vous avez compris ce dont il s'agit là, c'est toutes vos prières qui vont changer. Seigneur, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est à cause de ton nom. C'est afin que ton nom soit glorifié. Afin que les hommes aient égard pour à ton nom. Ce n'est pas moi. Tu m'as sauvé. Tu m'as donné le Saint-Esprit. Que peut-il m'arriver d'autre que de perdre ma vie et d'être pris dans tes bras? Rien. Mais à cause de ton nom, ô Dieu, fais ceci. Agis, étends ta main. À cause de ton nom, à cause de ta gloire. Voilà, je vais m'arrêter là. Seigneur notre Dieu, nous avons tant de choses à découvrir encore de toi. Et Seigneur, pour ma part, je veux pouvoir encore plonger les regards plus loin dans ton œuvre et dans ton caractère. Seigneur, tu es si magnifique, tu es si merveilleux. Seigneur, tu mérites que gloire te soit rendue, pas seulement les dimanches matins, pas seulement de temps en temps lorsque nous y pensons, mais que notre vie, ô Dieu, soit consacrée à te rendre gloire. Que nos œuvres, nos actions ne soient pensées, ne soient conçues que dans l'objectif seul et unique que ta gloire soit révélée. Seigneur, je prie cela pour moi. Je prie cela pour mes frères et sœurs ici. Je prie cela pour tous ceux, Seigneur, qui ont le cœur sincère et qui veulent te rencontrer. Seigneur, que tu puisses imprimer cela sur leur cœur. Seigneur, et que les bouleversements que nous attendons dans notre vie viennent parce que nous avons compris que ce n'est pas nous qui sommes importants, mais que c'est toi d'abord. Oh Dieu, glorifie ton nom, Seigneur, ce matin, en chacun de tes enfants. Glorifie ton nom, Seigneur, dans tes actes et dans tes actions. Seigneur, nous sommes d'accord avec tous tes jugements. Nous sommes d'accord, Seigneur, avec tout ce que tu feras de nous. Nous sommes d'accord, Seigneur, de la façon dont tu as conduit nos vies jusque-là et tout ce qui s'est passé. Nous sommes d'accord, ô Dieu. Nous approuvons, Seigneur, ton œuvre sur nous. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Et Seigneur, travaille nos cœurs si nous n'avons pas compris ce matin. Seigneur, imprime cela sur les cœurs et fais que, Seigneur, la lumière puisse venir pour ceux qui ont les yeux fermés encore et les oreilles. Seigneur, glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen.